ça brûle et l'eau ça mouille et Béatrice l'orthophonise et Ivan. Ils aient parlé la langue française. Elle mit ses pieds sur son vieux bureau des années 502. Elle n'a aucun souci, me pas inon. Non, aucune fille n'est pas plus intelligente que cet orthophoniste. Plus gentil que cet orthophoniste.
L'enfant dyslexique est un enfant qui a un mal insurmontable à lire d'abord et ensuite à écrire correctement.
Soit ils font beaucoup de fautes d'orthographe, certaines fautes spécifiques par exemple, ils peuvent confondre les sons. On a également, que ce soit en dyslexie ou en dysorthographie, des inversions de sons. Fil, fli.
À 6 ans, l'enfant entre à la grande école pour apprendre à lire, écrire et calculer. Si tout va bien, l'apprentissage de la lecture se fait à une vitesse record. En 6 mois, l'enfant peut déchiffrer, lire et comprendre ce qu'il lit. Car à la période sensible des 6 ans, il y a véritablement explosion de lecture. Mais il arrive aussi que l'apprentissage de la lecture se fasse avec difficulté et retard et que des enfants de 6-7 ans, par ailleurs débrouillards et d'esprit pratique, donc de niveau intellectuel normal, échouent en lecture.
La dyslexie, c'est un problème qui vous préoccupe beaucoup. Vous avez raison, vous avez eu souvent besoin d'écrire pour demander des conseils, pour savoir comment faire. Lorsqu'on a un enfant dyslexique, on s'affole un peu et je crois qu'au fond, on a tort.
La dyslexie a un destin très singulier. Découverte par les médecins vers les années 1897, elle connaît actuellement un retentissement considérable et il est certain que c'est une variété de troubles de l'acquisition du langage écrit que l'on a tendance maintenant à reconnaître presque trop fréquemment en oubliant qu'il existe d'autres raisons pour lesquelles un enfant peut être incapable d'apprendre à lire ou à orthographier correctement.
Il y a des âges où on n'a pas encore acquis une lecture dite courante. Il y a donc des cas de mauvaise lecture qui sont des mauvaises lectures assez normales. Et en revanche, il y a des enfants qui apprennent à lire, semble-t-il correctement, que l'on pourra ensuite classer sous la catégorie d'enfants dysorthographiques.
Apprendre à lire et à écrire se fait pratiquement simultanément.
Oui.
Et si on n'arrive pas à apprendre à lire, on n'arrive pas à apprendre à écrire non plus.
Il y a aussi beaucoup d'adultes dyslexiques ou dysorthographiques qui commencent à oser le dire parce que c'est vraiment la maladie cachée de la communication. C'est un petit peu la maladie honteuse parce qu'on fait des fautes et qu'on est jugé sur le langage écrit par rapport à son intelligence. Alors, ce sont des gens qui ont du mal à lire ou qui ne comprennent pas bien ce qu'ils lisent. Ce sont des gens qui ont du mal à écrire ou qui n'arrivent pas à organiser leur récit.
On appelle généralement enfant dyslexique un enfant qui a un niveau intellectuel que l'on peut qualifier de normal, de moyen, c'est-à-dire qui devrait apprendre à lire comme un enfant de son âge, c'est-à-dire pas lire des choses difficiles, mais lire couramment des textes simples après un an d'apprentissage de la lecture.
Il est vrai que la dyslexie est un trouble de la lecture et de l'orthographe, qui est en fait un trouble qui entraîne une lenteur, des fautes, des stratégies particulières, et trouble n'est pas retard. C'est-à-dire qu'il s'agit bien pour ces personnes d'avoir à long terme une mauvaise structuration des stratégies par lesquelles ils vont lire et écrire.
Chez d'autres enfants, au contraire, bien que d'intelligence normale, bien que motivés par l'école, on constate qu'ils n'arrivent pas à apprendre à lire dans le délai habituel qui est d'une année en France quand on commence à lire à 6 ans. Si ces enfants-là n'ont pas non plus de perturbations affectives, cela existe, on considère qu'ils ont une difficulté spécifique et qu'on appelle actuellement la dyslexie.
Et il est bien évident que, d'une part, ils sont lents, et d'autre part, ils demandent beaucoup de vigilance et de labeur, c'est très fatigant pour eux, et au fond, ils déchiffrent tout le temps, y compris un an, deux ans, trois ans après l'apprentissage, autrement dit, c'est jamais automatisé.
On peut dire parfois que la dyslexie est une maladie, je ne dis pas qu'elle s'attrape comme la rougeole, mais il y a tout de même quelque chose de pathologique dans la dyslexie. C'est peut-être plus tout de même un état qu'une maladie.
Comme on ne peut pas séparer le langage écrit entre un langage de lecture et le langage orthographique, on constate que, effectivement, ces enfants dyslexiques ont des difficultés à acquérir l'orthographe. Ainsi, la dysorthographie prolonge la dyslexie.
Ça m'a beaucoup aidé en français et en grammaire. Je confondais certaines syllabes, je ne savais pas très bien écrire et je confondais des verbes, des choses comme
c'est
ça.
C'est un enfant qui doit finalement tous les jours surmonter une certaine souffrance. Et ça, finalement, il n'y a que la mère qui s'en rend compte. au départ, quand il va à l'école, si c'est le jour d'un contrôle de français, d'un contrôle d'anglais, parce qu'il y a un gros problème de langue étrangère, il doit surmonter cette souffrance qu'est l'échec. Il sait au départ qu'il ne va pas y arriver, alors qu'il a travaillé, alors qu'il s'est donné du mal.
Il est vrai que les médecins sont faits à la fois pour traiter, mais aussi pour rechercher tous les types de causalité. Telle qu'elle est définie de manière internationale, la dyslexie est un trouble qui apparaît comme un dysfonctionnement durable dans le développement cérébral.
La grande difficulté de la dyslexie, ce n'est pas tellement de la définir, mais c'est de la cerner. La définir, c'est une définition assez négative. En effet, être considéré comme dyslexique, l'enfant d'intelligence normale, qui n'a aucun déficit sensoriel, auditif ou visuel, dont la scolarité se déroule régulièrement et qui n'a pas de perturbations primitives ou préexistantes de l'affectivité. Autrement dit, ces enfants semblent avoir toutes les conditions requises pour apprendre à lire et pourtant, ils n'y parviennent pas dans les délais habituels.
Un enfant dyslexique est souvent très intelligent. Il y en a qui ont même un très haut quotient intellectuel, qui ont de très grandes possibilités. C'est un accident, c'est un trouble, c'est pas un déficit.
Très tôt, des enfants ont une mauvaise structuration, aussi bien de l'expression, mais aussi de la compréhension du langage oral. Ce qui fait que ces personnes, toutes ces personnes, sont en handicap de communication, non pas par défaut de motivation, mais parce que les stratégies avec lesquelles elles entendent, elles perçoivent les sons et les reproduisent, ne sont pas bonnes.
La dyslexie, c'est deux choses. C'est d'une part un trouble instrumental, c'est-à-dire une impossibilité à organiser les symboles écrits, parce qu'on a un trouble de perception, parce qu'on a un retard de la maturation, parce qu'on a des troubles sensorimoteurs.
Ces difficultés sont les symptômes d'un trouble qu'on appelle la dyslexie et qui se soigne. Trouble qui s'accompagne souvent de dysgraphie, c'est-à-dire malformation des lettres écrites, et conduira plus tard à la dysorthographie, c'est-à-dire difficulté d'orthographe.
Ou tout simplement parce qu'il y a eu dans la vie pédagogique de l'enfant des difficultés que d'autres n'ont pas connues. Et à côté du trouble instrumental, il y a toujours un facteur affectif, c'est-à-dire une difficulté à entrer dans le monde de communication des adultes.
Lorsque j'en parle, je situe ça comme une grande pêche à la ligne. Hein, vous avez un certain nombre de petits poissons à récupérer, et vous en récupérez 5 ou 6, et puis celui d'à côté va en récupérer 3 ou 4, et parmi ceux-là, il y en a 2 qui ressemblent aux vôtres, mais il y en a qui sont différents. Et puis chacun a un poids différent. Et donc ça va donner une multitude de formes de dyslexie, à la fois dans ses composantes, et puis dans l'importance que chaque composante a.
Actuellement, vous venez également de nous dire quel est le point de vue général de la dyslexie, pensant que ça tombe et dans le geste et dans les yeux. Et là aussi, je suis assez bloqué, je dirais, assez fixé sur l'oreille elle-même. Car la lettre elle-même, dyslexie, legere en latin veut dire recueillir par l'oreille. Et je crois que lire, se trouver devant la lettre, c'est se positionner et superposer à cette lettre tout le cristal sonore qu'elle représente. Et la différence qu'il y a entre l'animal qui évolue de plus en plus et l'homme, c'est que l'animal le plus perfectionné devient à un moment donné dirigé par son œil et met sous l'impulsion de l'œil toute la musculature qui va commander cet œil et la tête. Il devient oculocéphalogie, si vous suivez le terme consacré neurologiquement. Et je pense que l'homme est un audiogie, un audio-oculocéphalogie. Il a mis sous la coupe de son audition tout le reste. Autrement dit, tout l'univers pour le sujet commence à exister quand il peut le dénommer. Eh bien, l'enfant qui est dyslexique est celui qui ne peut pas dénommer l'univers environnant.
Je voudrais rappeler ce que disait le professeur Galaburda, qui insistait bien, il n'y a pas de cerveau standard. Hein. Quand on prend des cerveaux, il y a des gens qui sont des hyperlexiques, qui lisent très très facilement. Ensuite, il y a une moyenne, il fait une courbe de Gauss. Et puis, de l'autre côté de la courbe de Gauss, vous avez des personnes qui lisent moins bien. Et je pense que les dyslexiques, en grande partie, peuvent se mettre dans cette partie de lecteurs qui lisent avec une certaine difficulté. Je voudrais rappeler que, et c'est bien connu que 70% des cas sont des cas familiaux, on va retrouver dans les familles, et qu'il y a trois garçons pour une fille.
On a aussi des assimilations, enfin il y a toute une approche du langage qui est différente, parce que ce sont des enfants ou des adultes qui n'utilisent pas les mêmes circuits neuronaux que les personnes non dyslexiques.
Bien sûr, très souvent, on dit que les gauchers contrariés ont plus de chances d'être dyslexiques que les autres. En réalité, je crois qu'on a là peut-être beaucoup exagéré. Et pour savoir quel est le rôle de la gaucherie, si j'ose dire, dans l'évolution de la dyslexie, il faut avoir un avis neurologique très
averti. Des méthodes caricaturales, c'est-à-dire dramatiquement et exclusivement globales, par exemple, n'ont pas créé dyslexie, mais en tout cas, elles permettent de les révéler beaucoup plus.
Dieu sait si on a fait des rapports entre la dyslexie et la gaucherie et le manque de latéralisation cérébrale.
La dyslexie peut venir aussi de troubles affectifs, c'est-à-dire d'une désorientation affective qui peut être due à l'incertitude de l'enfant sur les sentiments de ses parents à son égard, à l'angoisse qu'il ressent d'un abandon réel ou supposé, à la disparition d'un être cher, à l'impossibilité de trouver sa place dans le milieu familial, ou à la peur ou au refus de communiquer.
Au début de l'apprentissage de la lecture, les enfants font des fautes classiques de dyslexiques, ils font des inversions, ils font des complications, ils oublient des lettres. C'est un stade normal ou presque pendant l'apprentissage. Et les choses ne deviennent sérieuses qu'à partir du moment où, ayant essayé pendant plusieurs mois, on voit que les fautes persistent, qu'elles se multiplient, que les efforts pédagogiques restent vains. Alors à ce moment-là, on s'inquiète.
Les parents ont donc à prendre conscience du phénomène dyslexie s'il se produit. Au lieu d'accuser l'enfant de paresse ou le punir, ils doivent obtenir qu'il fasse l'objet d'une rééducation psychomotrice ou d'une psychothérapie.
D'argument absolu pour dire qu'il y a une relation totale entre gaucherie et manuel, et gaucherie contrariée en particulier, et dyslexie.
Tous les troubles du développement des apprentissages en général, qu'ils soient des troubles globaux, atteignant l'ensemble des apprentissages du développement de l'enfant, ou des troubles spécifiques, c'est-à-dire atteignant par exemple le langage, ou atteignant le calcul, ou atteignant la motricité, on sait que tous ces troubles du développement atteignent davantage le garçon. Il semble que le garçon soit plus fragile.
Un enfant qui est en conflit affectif dans son milieu, vis-à-vis de son entourage, qui n'a pas vécu tous les stades du développement émotionnel, sensible, dans son enfance, peut être dyslexique, non pas parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas recevoir la communication des adultes, mais parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens de s'intégrer à la vie des adultes. Oui. Tout se passe comme s'il refusait, un refus inconscient, en quelque sorte.
On a fait une étude l'année dernière sur des enfants de 9 ans, donc on avait des enfants normolecteurs et des enfants dyslexiques. Et donc on voit que dans la région occipitale, eh bien, il y a une région qui va se spécialiser au moment où on acquiert la lecture pour les mots, et on ne voit pas d'activité de cette région-là chez les enfants dyslexiques.
On peut considérer que les dyslexiques sont gênés un peu toute leur vie, ou très très longtemps, et sont toujours des gens qui sont en apprentissage de la lecture. Parce qu'au fond, le phénomène le plus remarquable, c'est que cet apprentissage, ce mécanisme, ces mécanismes ne s'automatisent pas. Ce qui veut dire que la mauvaise lecture, la dyslexie, c'est d'abord un trouble. Ça n'est pas un retard.
Pour en revenir à la dyslexie, on peut dire que c'est une association difficile à préciser, car elle diffère suivant chaque enfant de causes, de facteurs divers, parmi lesquels je citerai le retard du langage, un déficit de langage, les problèmes de famille, de lignée dyslexique, les problèmes aussi d'acquisition de l'espace, du rythme et de le repérage dans l'esprit.
Est-ce que c'est la conséquence du fait qu'ils ont du mal à lire, donc ils n'arrivent pas à spécialiser cette région? Et tout ce qu'on voit, c'est simplement le fait que comme ils ne sont pas exercés à lire, cette région ne s'active pas? Ou est-ce qu'en fait, cette région ne peut pas s'activer parce qu'elle est mal organisée au départ?
Les malheureux parents ne sont pas responsables d'avoir un enfant dyslexique. Mais ils ont un rôle très très important à jouer dans l'évolution de cette dyslexie, parce qu'ils font partie de tout l'entourage humain autour duquel, qui est autour de l'enfant, et par conséquent, leur manière de comprendre la question, de comprendre que c'est une dyslexie et pas une mauvaise volonté est importante. Leur action conjuguée avec celle des enseignants, avec celle des spécialistes est très importante aussi. Et la manière dont ultérieurement ils se comportent, ça c'est très important, mais ils ne sont pas responsables de cette dyslexie.
Donc c'est vraiment une identité. Je ne crois pas que ce soit quelque chose à enlever, pourvu qu'ils restent dyslexiques et dysorthographiques. Ça a beaucoup d'avantages. puisque Einstein était dyslexique, je pense qu'il n'aurait pas réussi à avoir autant de génie s'il ne l'était pas.
Dernièrement, une famille arrive en disant, eh bien voilà, il est paresseux, il est désagréable, il est de mauvaise humeur, il est tout le temps grognon, on ne sait jamais par quelle boule prendre. À l'école, c'est une catastrophe, il va être orienté dans une classe qui ne nous plaît pas, disaient les parents. Et cet enfant qui entendait tout ça n'avait pas l'air très à l'aise, évidemment. Je me tourne vers lui et je lui demande, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il regarde ses parents en disant, eh bien moi, c'est pas ça du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai la trouille.
J'étais dans une classe et on avait des cours, on travaillait sur des fiches. Et en fait, on avançait grâce à ces fiches à son rythme. La maîtresse ne voulait pas que l'on emmène nos cahiers à la maison. Et un jour, par mégarde, j'ai apporté ces cahiers à la maison. Et ma mère a constaté que tous les mots étaient rattachés les uns contre les autres et qu'une ligne faisait un mot. Et à la suite de ça, elle m'a emmené aux enfants malades où on a fait des tests. Et à partir de ces tests, on a constaté que j'avais une dyslexie tout à fait caractéristique.
Évidemment, en tant que parent, j'étais un petit peu bouleversé ce jour-là en voyant que peut-être sa lecture n'était pas normale. Beaucoup de parents, lorsqu'ils voient leurs enfants écrire en miroir, se disent « ça y est, il va être dyslexique ».
La majorité des profs qui n'étaient pas au courant de la dyslexie voyaient ça comme de la paresse. J'étais conscient du fait que j'étais moins bon que les autres. Pour moi, ce n'était pas dyslexique ou autre. Je ne réalisais pas que c'était la dyslexie parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Mais c'était vraiment le fait d'être moins bon que les autres. Moralement, je pense que ça nuit tout de même aux enfants.
Troisième phrase. Po, po, ta, ti, 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 po.
Po, po, ta, ti, 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 po.
On est tous dyslexiques avant de savoir lire.
Je pense que j'aurai toute ma vie des suites de ma dyslexie. Aujourd'hui, à 24 ans, quand j'écris un texte, sur deux lignes, j'ai au moins 3 ou 4 fautes.
Mon fils est en 5e et en échec scolaire. Je demande au prof de vérifier s'il prend bien ses cours, mais les profs refusent de contrôler. Il n'a finalement aucune trace de ses cours et il m'est donc impossible de le faire travailler.
En fait, ce qu'on sait depuis largement les années 50 avec Algren, c'est qu'il y a des familles qui sont surchargées de troubles du langage oral et écrit, c'est-à-dire dans lesquelles la fréquence, la prévalence est bien au-dessus de 8-10%.
Je ne crois pas qu'une méthode révèle un trouble, mais peut-être l'augmente-t-elle, mais ça dépend aussi de la nature de sa dyslexie, c'est-à-dire qu'il y a des dyslexies qui vont être améliorées par une méthode globale, d'autres dyslexies qui vont être améliorées au contraire par une méthode classique ou phonétique. Donc ce n'est pas la méthode qui est en cause, mais c'est le type de dyslexie qui va être révélé par une certaine méthode.
Mais chacun comprendrait que ce que dit l'autre amuse, n'est-ce pas? Enfin, les formules des politesses pour se quitter aurait tout.
On peut considérer que un dyslexique sur deux a des troubles du comportement s'il n'est pas correctement rééduqué et dépisté. Quand on voit la fréquence de ces troubles de personnalité, très variable dans leur expression, certains enfants se replient sur eux-mêmes, d'autres au contraire deviennent instables, d'autres deviennent opposants, certains même développent une phobie de l'école, d'autres deviennent fugueurs. Les modes d'expression et fonctions de leur personnalité, des réactions de l'entourage qui comprend mal l'échec, d'autant plus que l'enfant est intelligent.
Panique parce qu'il n'y arrive pas et quand il est dans la panique et dans la peur, son cortex ne fonctionne pas, c'est son cerveau reptilien qui fonctionne, dans lequel il n'y a rien dedans, il n'y a pas de boîte noire qui lui permette de voir clair, si j'ose dire, et d'écrire, donc il est vraiment handicapé de ce point de vue. Oui.
L'école obligatoire a probablement révélé une sous-population d'enfants qui, devant une pédagogie commune et même bien gérée globalement, eh bien souffrent ou ont des difficultés.
Je crois que les choses sont simples. Premièrement, tout ce qui arrive à un dyslexique n'est pas de l'ordre de sa dyslexie. Donc il a le droit d'avoir une dyslexie et une maman déprimée. Bon, alors donc il faut aussi que la psychologie soit une psychologie claire, simple et concrète. Donc on peut faire de la psychologie pour d'autres choses.
En fait, le trouble affecte uniquement l'acquisition du langage écrit, d'abord sous la forme de lecture et du débit de l'écriture, ensuite sous la forme de l'écriture telle qu'elle continue par la suite. Il y a des confusions de lettres, les lettres les plus voisines les unes des autres par l'audibilité, aussi par leur aspect visuel, et également des inversions dans la place des lettres. Tout cela, voyez-vous, ce ne sont pas des fautes extraordinaires, ce sont des fautes que les enfants normaux, mais immatures, de l'âge de 6 ans, commettent également.
Nous avions été frappés par le propos d'une mère de famille, mère de 4 enfants d'ailleurs, qui nous disait que, se trouvant en présence d'enfants dyslexiques, elle s'était heurtée à l'incompréhension complète des membres de l'enseignement et qu'un de ses interlocuteurs enseignants lui avait répondu « Mais madame, la dyslexie, ça n'existe pas ».
Il est évident que là encore, il faut rééduquer. Et ces enfants qui sont véritablement, qui portent des séquelles graves de dyslexie, des troubles graves de l'orthographe, devraient évidemment être éduqués à part. Car il y a une situation extrêmement délicate dans les classes. On ne peut pas tout pardonner à ceux-là sous prétexte qu'ils sont dyslexiques et dysorthographiques. Leurs camarades crieraient au scandale et à l'injustice. Mais on ne peut pas non plus considérer ces enfants comme en quelque sorte responsables de leur faute et les faire traîner perpétuellement des zéros à toutes les compositions parce qu'on leur retire 5 points ou 10 points en fonction du nombre de fautes d'orthographe. C'est donc une situation très délicate.
Un fait est sûr, si le trouble est négligé, c'est ce qui arrive souvent, n'est-ce pas, l'enfant détériorise plus et plus et plus. Et il s'agit d'un trouble grave qui souvent se joint avec un trouble neurotique, émotionnel, etc., etc. Nous sommes confrontés à l'adolescence avec des jeunes gens, jeunes hommes qui ne savent lire ni écrire, et qui sont émotionnellement perturbés, qui sont socialement mal adaptés et qui envisagent une carrière même d'une délinquance. Et je voulais vous dire d'ailleurs qu'on a découvert, pas tellement récemment, que 50% des prisonniers sont des dyslexiques.
Depuis la maternelle, en fin de compte, on n'arrête pas de leur dire « c'est pas ça, tu te trompes, fais attention », etc. Comme ils font grosso modo les choses un peu à l'envers, des enfants classiques, dès qu'ils commencent quelque chose, ils sont arrêtés en plein élan. Parce que la maîtresse ne voit pas du tout où ils veulent en venir. Et donc ces gamins passent leur temps à avoir une vision à eux qu'ils essayent d'exprimer. On leur dit non, c'est pas ça, avant même qu'ils aient fini. La vision classique, ils ne l'ont pas, ils ne la voient pas. Ça fait qu'ils restent absolument bloqués en permanence.
Oh, je crois qu'on peut dire qu'il sera toujours dyslexique, plus ou moins. Mais finalement, quand on voit beaucoup d'adultes, ils disent volontiers, surtout quand ils ont été rééduqués, eh bien oui, je suis dyslexique et probablement mes enfants seront dyslexiques. Et...
On a demandé à faire un O avec son corps. On leur demande tous à faire les lettres de l'alphabet. Ils peuvent être par terre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc Brice s'est allongé par terre. Bon, et n'importe qui, un peu classique, imagine se pencher en avant, attraper les pieds et faire un haut le mieux possible, peu importe s'il n'est pas bien fait. Bon, Brice a commencé à se cambrer en arrière et est parti en arrière. Moi, réflexe premier, j'ai commencé à dire « t'as pas écouté, écoute ce que dit Béatrice ». Bon, or, elle m'a fait me taire heureusement à temps et Brice a fait un haut à l'envers. Il a attrapé ses pieds derrière et le haut était parfait.
Pour commencer à s'intéresser à un enfant présumé dyslexique, il faut d'abord faire un examen psychologique, avoir l'avis d'un médecin et l'avis d'un rééducateur.
L'enfant dyslexique est un enfant qui n'est pas prêt pour les apprentissages et qui n'est pas en mesure d'entrer dans l'ordre symbolique. Pour rééduquer cet enfant auquel manquent la plupart du temps les mots révélés par une mère, par un père ou par un couple, il faut être sûr qu'on a pour soi son désir à lui, l'enfant, et non qu'on projette sur lui son propre désir d'adulte.
C'est quand ces spécialistes ont donné leur lumière sur le problème de l'enfant, qu'ils les ont mis en commun, qu'on peut décider ou non si l'enfant peut profiter valablement d'une rééducation.
Sous prétexte que c'était de la rééducation, c'est-à-dire le recommencement de quelque chose qui avait échoué, et qu'il fallait bien à toute fin que, scotomisant peut-être les raisons essentielles qui avaient été à l'origine de l'échec, on remette l'enfant dans une situation qui était parallèle à celle de son échec, et qu'en fait, on efface d'un seul coup tout ce qui, sur le plan affectif, sur le plan sensoriel, sur le plan de l'attente, sur le plan de la maturité, de la maturation, avait pu faire que cet enfant, justement, s'étaient trouvés en situation d'échec.
Pour la dyslexie, il faut un dépistage précoce, en sachant que la moitié des dyslexiques déjà ont un retard de langage. Donc ça aide les parents à penser à la dyslexie. C'est une orthophoniste qui peut dépister la dyslexie.
Il est évident que certaines méthodes d'apprentissage de la lecture, qui sont d'ailleurs relativement abandonnées, comme la méthode d'apprentissage globale, qui peuvent être des méthodes excellentes pour certains enfants, n'étaient certainement pas des méthodes à généraliser, parce qu'elle semble avoir fort peu aidé des enfants prédisposés à avoir ce genre de difficultés ou créer des espèces de dyslexie pédagogique qui sont en fait de mauvais apprentissages purement et simplement.
Oh, c'est une même aberration que la notion même de classe de rattrapage où on oblige les enfants à aller plus vite que les autres pour les rattraper sous le prétexte que dans un premier temps ils n'ont pas pu aller aussi vite que les autres.
Elle peut la dépister dès l'âge de 4 ans, 5 ans, maternelle des moyens, en maternelle des grands. Et alors entreprendre une rééducation particulière qui permettra à l'enfant de ne pas avoir de difficultés d'apprentissage. Le redoublement, bien sûr, n'est pas une solution. Il ne suffit pas de recommencer. Il faut apprendre autrement pour un dyslexique.
Moi, pour ma part, je m'inquiète dès que je vois qu'un enfant en classe de CP, puisque c'est la classe que je fais cette année, a des troubles persistants dans l'apprentissage de la lecture, quand l'automatisme ne se met pas en place, quand l'enfant est très lent, quand il y a un gros décalage entre l'oral et l'écrit, quand les résultats en lecture ne sont pas, présentent un écart important avec ceux en mathématiques, quand le désinvestissement devant les tâches écrites est important, également quand il y a des confusions entre les lettres similaires, les sons similaires, le V, le F, le M et le N. Également l'inversion des chiffres dans un nombre, quand l'enfant écrit 51 pour 15, par exemple. L'écriture en miroir, quand l'enfant a un mauvais repérage dans le temps et l'espace.
Mais il faut stimuler ces talents qui ne sont jamais stimulés, et il faut leur apprendre, par ces stimulations, beaucoup par l'art, la musique et les textes, à retrouver une réelle cohérence dans le langage écrit.
Voilà qui nous est apparu fondamental, tellement fondamental, que nous disons maintenant, cet enfant, bien sûr, a un symptôme, cet enfant vient nous voir parce que nous sommes rééducateurs du langage, mais nous laisserons à cet enfant le temps et l'espace d'exprimer son désir, c'est-à-dire de vivre ce qu'il a à vivre avant que notre industrie technique ne vienne lui permettre de faire la différence entre cras ou cru, entre gras ou gris, entre breux ou dreux, etc.
On croit que les dyslexiques et dysorthographiques détestent l'écrit, c'est pas vrai. Dès qu'on leur propose d'écrire ce qu'ils ressentent et non pas d'imiter un modèle, en fait, ils adorent ça. Ce sont des artistes au sens pur. Ils ont besoin d'exprimer.
On a souvent dit qu'on restait dyslexique toute sa vie, c'est-à-dire qu'on avait une certaine fragilité et que lorsqu'on était fatigué, des fautes revenaient, des difficultés se renouvelaient, que la lecture n'était pas toujours aussi facile. Mais un enfant bien rééduqué, un enfant adolescent ou adulte même, puisqu'on peut même rééduquer des adultes, normalement peut vivre sans difficulté sa vie intellectuelle.
D'une approche de l'enfant en le considérant dans son ensemble, avec un langage peut-être détérioré, pas tout à fait socialisé, mais qui est susceptible d'évoluer en fonction de ce que l'enfant connaît déjà au départ, et non pas en fonction d'un programme de rééducation établi et qui sera appliqué comme un peu un pansement, si je peux utiliser cette comparaison.
L'éducation nationale a pu penser qu'une méthode de lecture, même moyennée, entre l'analytique et le global, pouvait correspondre à 30 enfants d'une classe. Or, c'est faux. 30 enfants d'une classe ne correspondent pas à une méthode qui emploierait, si vous voulez, une espèce de stratégie moyenne. C'est une erreur de penser ça. Je crois qu'il faut accepter qu'un certain nombre d'enfants ont effectivement des stratégies de lecture particulières. Et ce qu'il y a de particulier dans la rééducation, c'est la reconnaissance, l'individualisation de la pédagogie.
La dyslexie est un handicap de très longue durée et qui résiste vraiment aux entreprises psychologiques. Et on voit bien aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui sont pris en charge psychothérapique peuvent être mieux dans leur peau, c'est-à-dire mieux assumer les difficultés de l'école et de secondaire à leur handicap, mais en fait ne progressent pas particulièrement sur le plan de la lecture.
Ils étaient 30 sur la piste, on leur disait vous partez tous patiner à droite, vous faites un tour, revenez. Il y en avait 29 qui partaient à droite. Et un qui partait à gauche, c'était le mien.
Il y a même des spécialistes qui peuvent repérer au babillage, avant un an, une dysphasie.
Donc c'est repérable extrêmement tôt. Avec des bons outils, c'est repérable extrêmement tôt. Et il faut savoir qu'il est impératif de commencer une rééducation de la dysphasie avant 5 ans. Et trop souvent, les parents galèrent des années avant d'arriver dans une consultation spécialisée où on leur dit « Mais pourquoi vous arrivez si tard ?»
C'est par ici, chocolat, merci.